Nous n'en aurions aucune idée si frère Léon n'avait désobéi à l'interdiction formelle et vu beaucoup de choses. Il avait également entendu des paroles destinées à demeurer secrètes. Le lecteur épris de merveilleux trouvera le détail de tout cela chez saint Bonaventure et dans les Considérations sur les stigmates, éblouissantes, mais parfois embrouillées. L'essentiel de la version courante se réduit à ceci. Le 14 septembre, jour de l'exaltation de la Sainte Croix, dans la nuit, un séraphin aux ailes de feu, venu tout droit d'Isaïe 6:2, portant l'image du crucifié, fondit du ciel sur François en contemplation hors de sa grotte et imprima dans sa chair les marques du supplice, de même que la transverbération du coup de lance au côté droit. Un fait qui semble indubitable est que toute la population des alentours vit le sommet de la Verna enveloppé de lumière, comme si le soleil était déjà levé. De son côté, frère Léon vit également une boule de feu tombant des hauteurs jusqu'au visage de François, puis remontant au ciel. Frère Léon ne pouvait mentir. Et telle est la force de sa sincérité que je me persuade qu'il décrit la vérité quand je lis la description de ces faits extraordinaires. Mais la page tournée, la magie s'évapore, et j'en reviens à cette certitude que le secret de François est à jamais celui de Dieu. Le problème n'est pas l'authenticité des stigmates, mais bien ce que les témoins en ont fait. Ils s'y sont plongés pour en tirer un trésor d'images prodigieuses. Ils l'ont pillé comme les croisés avaient pillé Byzance pour en emporter des masses de reliques. Dire que le XIIIe siècle offrait le spectacle d'un monde de visionnaires serait excessif. Mais nous ne devons jamais oublier que la vision était monnaie courante. Chacun avait ses visions toujours utiles aux besoins et généralement admises. Et qu'appelait-il vision? Ne s'agissait-il pas, dans la plupart des cas, de rêves prémonitoires? De nos jours même, il nous arrive d'en avoir. Mais la raison et le docteur Freud sont passés par là. Nous n'en faisons pas état. L'Écriture en est pleine, de la Genèse aux Évangiles, et cette imagerie sacrée comptait pour l'humanité. Les visions des prophètes étaient d'un autre ordre et ne relevaient pas nécessairement du rêve. La vision des séraphins aux 6 ailes de feu qui apparurent à Isaïe dut faire sur François une impression qu'on ne peut négliger. Des souvenirs oniriques de l'Écriture devaient l'accompagner de sa conversion à sa mort. Pour tout le Moyen Âge, le monde intérieur avait tendance à s'extérioriser sous forme d'images. Frère Léon, le plus sérieux des témoins, on pourrait dire le seul, est à l'origine de tout ce que l'on sait, et il voyait par les yeux de l'amour. François, lui, ne voulait pas qu'on en parlât, et cachait jalousement la trace des stigmates, parce que ses blessures étaient comme des bouches qui en disaient trop. Le retour. Dans les derniers jours de septembre, François prit à regret la décision de quitter la Verna. La prédiction d'Élie à son sujet ne faisait aucun doute dans son esprit. Il allait mourir. Le temps qui lui restait, il voulait en profiter pour dire adieu à la terre bien-aimée, et surtout pour évangéliser une fois encore les villes et les villages. La mélancolie du départ cédait pourtant devant le souvenir des grâces reçues et de l'espérance de son salut. Mais alors qu'il se réjouissait, il eut un soir l'intuition que frère Léon était en proie à une tentation cruelle qu'il n'osait avouer. François sut en obtenir la confidence. Il ne s'agissait pas d'une tentation charnelle, mais, tout au contraire de ce qu'éprouvait François, de la terreur de n'être pas sauvé. François prit une plume et de sa grande écriture maladroite